Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, les déconnectés du logement. Une question de dignité humaine. Et dialogue sur un crime. Bonne écoute!
Les déconnectés du logement. Un texte de Michel C. Auger, paru le 25 juin 2023 dans La Presse. Parfois, devant une crise, le gouvernement Legault fait preuve d'une générosité et d'une empathie qui ont pour effet de rassembler les Québécois et de les aider à passer à travers des temps difficiles. On l'a vu lors de la pandémie ou récemment pour les incendies de forêt. Mais à d'autres moments, le même gouvernement est totalement insensible au sort des victimes de la crise et se réfugie dans des statistiques ou des arguments macroéconomiques un peu déconnectés de la réalité des citoyens, surtout les plus démunis. Le gouvernement Legault ne peut nier une part de responsabilité dans la crise du logement qui n'est pas apparue spontanément avec la date du 1er juillet de cette année. Le Québec a le taux d'inoccupation des logements le plus bas depuis 20 ans. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Le taux d'inoccupation est de 1,7%, alors qu'il devrait être à 3% pour être à un point d'équilibre, presque deux fois plus, donc. En pleine crise du logement, on vient de connaître le pire mois de mai en 25 ans pour ce qui est des mises en chantier selon l'APCHQ, l'Association des professionnels en construction de logements au Québec. Une baisse de 62% par rapport à 2022. À Montréal, c'est 73%. Évidemment, le gouvernement du Québec n'est pas le seul responsable. La hausse des taux d'intérêt, la pénurie de main-d'œuvre et les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement sont aussi en partie responsables. Mais on ne peut que noter que, depuis son élection en 2018, le gouvernement Legault n'a financé que 4 700 des 14 000 logements sociaux promis au Québec. Une crise comme celle que nous vivons actuellement n'arrive pas sans des signes avant-coureurs. Force est de constater que la question du logement n'a jamais été une priorité pour le gouvernement. Et cela s'est traduit ces derniers jours par des déclarations qui font preuve d'une grande insensibilité sur ces questions. Le premier ministre François Legault a dû s'y prendre à deux fois pour expliquer ses déclarations sur le fait que le Québec ne devait pas rester pauvre pour éviter que les prix du logement n'atteignent les niveaux de Toronto et Vancouver. Les prix du logement sont en fonction des revenus des citoyens. Et comme les revenus ont augmenté, il est normal que les loyers augmentent, ajoutait-il. La mairesse de Montréal a rapidement remis les pendules à l'heure. Il n'y a pas de corrélation entre les salaires qui augmentent et la capacité des citoyens de se loger. En fait, M. Legault n'a fait que répéter ce qui est depuis longtemps son mantra. Le Québec doit devenir plus riche et cesser d'être dans la cave du classement des États américains et des provinces canadiennes pour le PIB par habitant. Mais ce qu'il a dit en parlant du prix des logements se trouve à occulter une autre réalité. L'un des avantages stratégiques de Montréal à l'échelle du continent est précisément le faible coût du logement, et pas seulement du logement social. Souhaiter que les prix ou les loyers augmentent, c'est tiré dans le pied de la métropole et c'est aussi d'une remarquable insensibilité quant au sort des locataires. La ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, quant à elle, a déposé en fin de session un projet de loi très favorable aux propriétaires et qui ne tient pas compte des principales demandes des locataires, comme un registre des loyers. Devant le tollé, elle a soutenu que les locataires qui veulent pouvoir céder leur bail n'ont qu'à investir en immobilier. On est loin de l'empathie qui avait fait la fortune du gouvernement Legault pendant la pandémie ou encore plus près de nous lors des incendies de forêt. Cela nous indique combien non seulement la question du logement ne fait pas partie des priorités de ce gouvernement, mais qu'elle n'a pas été sur son écran radar avant qu'il ne soit trop tard. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aborder ce problème à partir d'une perspective strictement économique. En termes strictement économiques, un flip immobilier, comme celui auquel la ministre France-Hélène Duranceau a participé dans son ancienne vie, c'est une excellente affaire. On prend un vieil immeuble, on met les locataires dehors, de gré ou de force, ou quelque part entre les deux, on rénove et on revend les logements avec profit. Pensez-y. Le promoteur fait un beau profit. Ses revenus sont imposables et l'État y trouvera donc son compte. Les acheteurs sont bien sûr contents de leur nouvelle maison. La municipalité va recevoir plus de sous en taxes foncières. Le PIB va augmenter. Bref, tout le monde est heureux. Sauf, bien sûr, les gens qui habitaient ces logements et qui se retrouvent dans un logement plus cher et le plus souvent de moindre qualité. Et tant que cet aspect de la crise du logement n'aura pas été véritablement intégré aux politiques du gouvernement, il n'y aura pas de solution en vue. C'était « Les déconnectés du logement », un texte de Michel Séauger, paru le 25 juin 2023 dans La Presse. Une question de dignité humaine. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 25 juin 2023 dans La Presse. Tout le monde n'a pas le même accès aux petits coins. Et c'est un problème mondial. Entrevue avec le sociologue Julien Damon, auteur du livre « Toilettes publiques, essai sur les commodités urbaines », paru aux presses de Sciences Po. Pourquoi un livre sur les toilettes? C'est dégueulasse, non? C'est exact. C'est un sujet dégueulasse à l'échelle internationale, non pas seulement de propreté, mais de dignité humaine, parce que vous avez encore des centaines de millions de personnes qui sont forcées de déféquer à ciel ouvert. Et vous avez des centaines d'enfants qui meurent chaque jour parce qu'ils sont en contact avec les eaux usées. Alors oui, c'est un sujet dégueulasse parce que c'est un sujet qui demeure scandaleux. Il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Est-ce que cette inégalité concerne seulement les pays du tiers-monde? Non. C'est un service basique dont même les villes modernes ne sont pas suffisamment équipées. Le plus évident, c'est ceux qui n'ont rien et doivent trouver dans la ville de quoi se soulager de façon digne. Après, vous avez les professions de la mobilité, taxi, livreur, chauffeur routier. Ces gens ont des besoins comme tout le monde, mais n'ont pas d'endroit comme en disposent la plupart des gens. Vous parlez aussi des inégalités hommes-femmes. Elle est flagrante, et tout le monde peut s'en apercevoir. Que ce soit Montréal, Paris ou New York, vous avez des files d'attente bien plus importantes devant la toilette des dames. C'est parce qu'historiquement, notre espace public est pensé pour et par les hommes. Les femmes passent plus de temps aux toilettes pour des raisons anatomiques. Elles doivent s'asseoir, alors que nous, les messieurs, ça prend beaucoup moins de temps. Quelles seraient les solutions? On peut faire des toilettes totalement mixtes, neutres ou, si vous préférez, dégenrées. Ça a un avantage immédiat pour les femmes, qui est de réduire le temps d'attente moyen. Mais une grande partie des femmes ne souhaitent pas partager cet espace avec des messieurs qui peuvent être plus ou moins sales ou vicelards. On pourrait aussi envisager une sorte de discrimination positive pour les femmes qui serait de construire plus de mètres carrés de toilettes pour les femmes. Vous parlez aussi de l'inégalité nord-sud. C'est un vrai problème. 500 millions de personnes, soit 6 % de la population mondiale, n'ont toujours pas d'accès aux toilettes. Que faire? La situation s'est considérablement améliorée en Inde et en Chine, deux pays très populeux qui ont énormément investi de ce côté. En Afrique subsaharienne, en revanche, ça reste préoccupant, avec un impact très négatif sur la santé, l'économie, le développement. Depuis 2010, l'ONU a jugé que l'accès à l'assainissement comptait parmi les droits humains. Cela commande des investissements. La Fondation Bill Gates a mis des centaines de millions pour faire des toilettes intelligentes dans les pays en développement. Ça passe par l'énergie solaire ou des systèmes de copeaux de bois pour enlever les odeurs et par la suite accélérer le compost qui sera utilisé comme engrais. L'avantage pour les pays pauvres est qu'ils n'ont pas de réseau d'égouts, ce qui permet de passer directement au développement industriel de toilettes sèches. Dans les pays du Nord, ça peut seulement se faire de manière bricolée, pour des raisons d'habitude et parce qu'on a déjà tous ces tuyaux. C'est du gaspillage d'eau, mais on ne changera pas ça du jour au lendemain. Pour vous, ce droit aux toilettes concerne aussi les pays occidentaux? Je pense que dans les villes occidentales, on doit pouvoir avoir dans l'espace public une offre suffisante pour que tout le monde puisse satisfaire ses nécessités. Il faut que ce soit une obligation dans la règle d'urbanisme. Il faut que ce soit gratuit, propre et sécurisé, ce que j'appelle dans mon livre le GPS. Comment? Les bars et les restaurants pourraient notamment faire leur part et être financés pour cela, en proposant l'accès à leurs toilettes. C'est une idée qui s'étend un peu en France, en Belgique, en Angleterre, en France. Ce n'est pas du tout idiot. Tous les propriétaires ne seraient sûrement pas volontaires, mais si 10 % seulement le faisaient, ça augmenterait le nombre de toilettes de façon considérable. Vous évoquez dans votre livre les Vespasiennes et les Sanisettes qui ont fait l'histoire de Paris. Au Québec, ces toilettes publiques sont beaucoup plus rares. Je n'osais pas vous en parler. J'adore Montréal, mais c'est quand même préoccupant. Pour le touriste, c'est un enjeu que de pouvoir disposer de solutions. C'est encore plus important dans un contexte où nous vieillissons et sommes de plus en plus mobiles. Dans l'avenir, une ville accueillante pour les personnes âgées sera une ville avec de plus en plus de toilettes. C'était une question de dignité humaine, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 25 juin 2023 dans La Presse.
Dialogue sur un crime. Un texte de Katia Gagnon, paru le 4 juin 2023 dans La Presse. Une victime et son agresseur, face à face. Ce dialogue sur un événement horrible et traumatisant semble impensable. Et pourtant, il se produit régulièrement dans les pénitenciers québécois et aussi hors des murs, avec des auteurs et des victimes de crimes apparentés. Au-delà des tribunaux, cette autre justice peut-elle contribuer à panser des plaies? Ça rend humain de souffrir ensemble. Nous sommes dans un pénitencier quelque part au Canada. Trois personnes sont assises à une table. À l'extrémité, un médiateur. face à face, une victime et son agresseur. Ces deux personnes, unies par un événement horrible et traumatisant, se regardent les yeux dans les yeux. Elles sont si proches qu'elles pourraient se toucher la main. La victime a pu subir un viol, une tentative de meurtre, de l'inceste. Dans ce type de rencontre, la gravité du crime n'est pas un critère d'exclusion, sauf en matière de violence conjugale. Une seule chose compte, la victime et l'agresseur désirent tous deux se rencontrer. Et c'est ce qui se passera pendant les trois prochaines heures. L'intensité émotive de ce genre de rencontre, ça marque, dit le criminologue Serge Charbonneau, qui organise ses séances de médiation depuis près de 20 ans pour les services correctionnels du Canada, SCC. Depuis 2004, 2600 rencontres se sont tenues dans les pénitenciers de l'ensemble du Canada, dont un peu plus de 20 par année dans les pénitenciers québécois. Et la demande, note le SCC, ne cesse de progresser au fil des ans. Une préparation minutieuse. Ces rencontres ne s'improvisent pas. La demande initiale peut venir du détenu. La moitié des cas au Québec, les deux tiers à l'échelle canadienne, ou de la victime. Lorsque la demande vient du détenu, on se pose deux questions. Est-ce une demande constructive? Est-ce sécuritaire sur le plan psychologique? Si j'en arrive à la conclusion que le détenu n'est pas prêt, on reporte dans le temps. Et parfois, ça se solde par un refus, explique Serge Charbonneau. Quel que soit le cas de figure, ces échanges sont soigneusement organisés. La préparation peut durer entre 6 mois et 3 ans, indique M. Charbonneau. Première question, quelle forme prendra la rencontre? Il y a des rencontres en face à face dans la moitié des dossiers, indique Serge Charbonneau. L'autre moitié choisit d'échanger par lettre ou par des vidéos. Avec la victime et le détenu, le médiateur définit clairement le projet, les sujets à aborder, la nature du message à passer. Le cœur de la préparation, c'est « Qu'est-ce que tu t'en vas faire là? » On aide les personnes à se réapproprier la compétence pour discuter des enjeux qu'elles désirent aborder, explique Serge Charbonneau, criminologue. Les risques de dérapage sont présents, convient Serge Charbonneau, mais ils sont prévenus, en bonne partie, par cette préparation presque maniaque. Parfois, les attentes sont beaucoup trop élevées. Le père incestueux qui dit « Enfin, je vais pouvoir retourner dans les parties de famille », alors que de l'autre côté, je sais qu'on n'en est pas du tout là. C'est pour ça qu'il doit parfois y avoir des arrêts dans les processus. Il y a des lumières rouges qui s'allument. Au jour J, les deux parties savent exactement à quoi s'attendre. L'offenseur n'est pas là pour réduire sa peine. Il ne tire aucun avantage de cette rencontre. La victime veut manifester sa colère, mais aussi comprendre les motivations de son agresseur. La victime a parfois visité l'établissement carcéral au préalable. Elle s'est installée dans la salle et puis l'offenseur est entré. Et c'est là que l'impensable se produit. Un dialogue s'installe entre la victime d'un crime et son agresseur. La fin est parfois hollywoodienne, dit Serge Charbonneau. Les deux personnes peuvent se prendre dans leurs bras, mais d'autres fois, c'est beaucoup plus modeste. Certains sont un peu déçus, il y a une distance qui s'est gardée. Et d'autres fois, certaines victimes s'en vont là pour dire « Tu ne seras plus jamais dans ma vie, et je tenais à te le dire. » Vous écoutez « Dialogue sur un crime », un texte de Katia Gagnon, paru le 4 juin 2023 dans La Presse. D'autres initiatives au Québec. Le programme de médiation du SCC est probablement la version la plus intense des initiatives de justice réparatrice pour adultes. D'autres organismes, comme le Centre de services de justice réparatrice, ont développé des modèles qui ne réunissent pas l'auteur et la victime d'un même crime, mais de crimes apparentés. Des victimes d'agressions sexuelles, par exemple, qui rencontrent des auteurs du même crime. Ces rencontres peuvent prendre plusieurs formes, des face-à-face entre victimes et agresseurs, mais aussi des rencontres détenues-victimes, en plus grand groupe, où plusieurs victimes et agresseurs sont présents. On convie également des personnes à titre de membres de la communauté qui représentent la société. Ces rencontres, qui durent plusieurs heures et se déploient sur plusieurs semaines, se déroulent parfois à l'intérieur des murs du pénitencier et parfois dehors. Mais dans tous les cas, les auteurs de crimes doivent avoir été judiciarisés, explique Estelle Drouvin, juriste de formation et coordonnatrice au CSJR. Par contre, les victimes, elles, peuvent n'avoir jamais porté plainte. Le forum des tribunaux est mésadapté pour créer une rencontre. Même les personnes qui portent plainte et qui gagnent n'ont souvent pas le sentiment que c'est réglé, souligne William Henriques, coprésident du CA de l'organisme et lui-même avocat, qui s'est spécialisé en médiation. Monsieur Henriques a participé à plusieurs rencontres de justice réparatrice à titre de membre de la communauté. Les participants m'ont tous chamboulé. On ne sort pas indifférent d'une telle rencontre. On met le pire et le meilleur de l'humanité dans un mélangeur, nous dit William Henriques. Le CSJR organise ainsi une quarantaine de rencontres chaque année. Ce ne sont pas de gros chiffres, dit Mme Drouvin. Mais organiser ces rencontres, c'est tellement un gros processus. Le pairage entre détenus ou ex-détenus et victimes est en effet extrêmement long et délicat. On a souvent des personnes qui ont fait de longs processus thérapeutiques et qui m'arrivent en disant « Moi, j'ai déposé toute ma tristesse à la thérapeute, mais la colère, elle est restée dedans. » Donc, parfois, ils viennent avec cet objectif-là. Si, lui, il ressemble à mon agresseur, peut-être qu'enfin, je vais pouvoir la sortir, ma colère. Estelle Drouvin a elle-même été témoin privilégié d'une telle rencontre. Une jeune femme qui pensait bien s'être guérie de l'agression sexuelle subie il y a plusieurs années participait à des rencontres avec des détenus condamnés pour le même crime. Hasard total, l'un d'eux ressemblait physiquement à son agresseur. Quand il a commencé à parler de ce qui s'était passé, toute sa colère à elle est remontée. J'étais à côté d'elle. Je le sens encore. C'est elle qui s'est mise à trembler. Elle était blanche et criait. Elle a tout sorti. Comme quoi c'était inadmissible ce qu'il avait fait. Le détenu a été secoué. Mais la semaine suivante, la jeune femme est revenue. Elle était transformée. Elle l'a regardé en lui disant merci. Elle lui a dit « Toute cette colère que j'avais en moi, je n'en étais même pas consciente. Ça faisait 10 ans que je la traînais. » Elle lui a dit qu'à partir de la dernière rencontre, elle s'est sentie tellement libérée physiquement, se souvient Estelle Drouvin, coordonnatrice au CSJR. De telles histoires semblent difficiles à croire, convient la psychologue Lynn Bernier, une précurseur de la justice réparatrice au service correctionnel où elle a démarré un programme s'adressant aux pères incestueux au début des années 1990. Ces rencontres, puissantes sur le plan émotif, peuvent parfois provoquer une sorte de catharsis, semblable à ce qui survient en thérapie lorsqu'on dénoue des questionnements importants. La victime n'en revient pas de voir l'agresseur vulnérable, raconte Mme Bernier. Et l'agresseur n'en revient pas de voir la victime, qu'il pensait en colère, être elle aussi vulnérable. Ils se retrouvent tous les deux avec quelqu'un qui souffre. Ça rend humain de souffrir ensemble. Il n'y a plus un agresseur et une victime. Il y a deux personnes qui souffrent. Et c'est ça qui est réparateur. Néanmoins, la justice réparatrice n'est pas une panacée. Mais jamais ce type de processus ne doit devenir une échappatoire à la justice. Si l'agresseur fait ça pour éviter la justice, oui, il y a un risque de dérapage. Si tu as envie de réparer, tu dois le faire gratuitement. 400. Nombre de séances de médiation dans les pénitenciers québécois depuis 2004. Source : Service correctionnel du Canada.
Pour entendre la suite de Dialogue sur un crime, veuillez rester à l'écoute puisque On lit pour vous continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.